Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Chant contre Chant, émission mensuelle sur le cinéma réalisée sur Fréquence Protestante par l'association Profil. Cette émission sera présentée par moi-même, Jacques Champeau, et animée par Marie-Jeanne Campana. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour.
Par Jean-Michel Zucker. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Jacques.
Et par Jean Wilkowski. Bonjour Jean.
Bonjour à tous.
Et d'abord, parce qu'il n'est pas encore trop tard, c'est... commence à l'être, mais pour le faire, nous présentons nos meilleurs vœux à nos auditeurs. Que cette année nouvelle vous apporte plein de découvertes et de joies cinématographiques. Et pour notre discussion ce mois-ci, nous avons choisi trois films très différents. Le premier est un drame classique de Todd Haynes, Carol, qui nous plonge dans l'Amérique des années 50. Le second est un très beau film japonais de Naomi Kawase, Les délices de Tokyo, au charme poétique et minimaliste. Et le troisième, auquel il est difficile d'échapper, est le nouvel épisode de Star Wars, Le réveil de la force, de J.J. Abrams. Nous parlons assez rarement de ce genre de film dans notre émission, mais il nous a semblé intéressant ce mois-ci de confronter ces trois films qui sont assez représentatifs du cinéma actuel. Nous avons un film classique d'auteur à budget relativement élevé, Carol, qui peut viser en France, disons, entre 500 000 et 1 million de spectateurs. Un film à budget plus réduit, mais d'une très belle écriture cinématographique, Les délices de Tokyo, qui va sans doute faire, mettons, quelques dizaines de milliers de spectateurs. Et puis, le blockbuster, qui a déjà dépassé, rien qu'en France, les 10 millions de spectateurs. Alors, nous allons commencer par Carol de Todd Haynes. Todd Haynes est un réalisateur américain né en 1961. Il sort son premier film en 1991, Poison, pour lequel il obtient le grand prix du jury au festival de Sundance. Il réalise en 2002 Loin du paradis, qui est un superbe mélodrame qui se passe déjà, comme Carol, dans l'Amérique des années 50 et qui s'inspire des mélos de Douglas Sirk. Suit en 2007 un biopic musical sur Bob Dylan, I'm Not There, et en 2011, une série TV qui connut un très grand succès, c'est Mildred Pierce, et dont l'action se déroule dans les années 30, lors de la Grande Dépression. Donc un réalisateur qui recrée avec talent l'atmosphère de certaines périodes américaines en s'inspirant des grands classiques hollywoodiens des années 50. Carol est tiré d'un livre de Patricia Highsmith, plus connu pour ses romans policiers, et il a été présenté en compétition à Cannes, où Rooney Mara, donc l'une des deux actrices, a reçu un prix d'interprétation féminine. Alors Marie-Jeanne, comment définirais-tu le style de Todd Haynes ?
Alors, si l'on devait définir en quelques mots ce film, je dirais volontiers élégance, raffinement, beauté. Les premières images, qui est une plongée dans les rues de New York, nous immergent d'ailleurs dans cette ambiance surannée, presque sépia des années 50, où les rues grouillent de gens pressés de faire leurs courses de Noël, ambiance d'ailleurs qui a été favorisée par le grain de l'image en 16 mm. Alors, l'apparition de Carol, sublime d'élégance dans des tenues colorées de haute couture, ajoute à cette atmosphère. On remarque que chez elle, tout est maîtrisé. Les gestes, les sourires, le maquillage, la coiffure, le rouge des ongles assorti à celui des lèvres. Mais lorsqu'elle voit Thérèse au rayon des jouets, on sent que les brûlures de la passion dévorent cette femme. Toutefois, Haynes ne heurte pas le propos par des manifestations intempestives. Non, non. Tout se passe dans des regards échangés, si importants dans ce film, des gestes esquissés, des sourires séducteurs. Car on a l'impression que plus que la passion elle-même, Haynes préfère explorer les chemins qui mènent à la passion.
Et ces chemins ne sont pas faciles.
Oh non, ces chemins sont difficiles et tortueux. Carol est en instance de divorce auprès d'un mari qu'il aime toujours et d'une petite fille qu'elle adore. On apprend qu'elle a déjà eu une aventure saphique avec une amie d'enfance qui est terminée depuis longtemps. Et dans cette société corsetée et rigoriste, c'est une faute. Son mari, qui veut lui enlever sa fille, veut faire une enquête de moralité. N'oublions pas que lorsque Highsmith a sorti son livre en 52, elle a utilisé un nom d'emprunt, Claire Morgan, car le propos était jugé trop sulfureux. Et c'est l'année où les psychiatres américains ont inscrit l'homosexualité sur la liste des maladies mentales, c'est dire. Alors, à cette annonce, Carole décide de partir de New York au hasard, où la conduira sa Pontiac. Elle propose d'y entraîner Thérèse, qui ne se fait pas prier. Et la vie de ces deux femmes amoureuses est décrite avec infiniment de pudeur, de retenue, de subtilité. On sent qu'il y a une véritable communion entre elles. Et lorsqu'enfin elles réalisent leur amour, c'est avec des images d'une infinie tendresse, d'une grande sensualité, tout en suggestion et je dirais même chasteté. On est bien loin de la vie d'Adèle, de Kechiche, que nous avions aimé, mais où les scènes d'amour étaient quand même vraiment trop appuyées.
Oui, c'est effectivement une autre époque que ces années 50, mais elles sont aussi marquées par le regard que la société porte sur cet amour. C'est pas uniquement une question d'unité.
Ah oui, 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 car devant cette Amérique corsetée, pudibonde, bien pensante aux codes oppressants, Todd Haynes nous montre une image de femme courageuse qui brave les interdits et affirme sa volonté de vivre son amour. Alors la scène avec les avocats et son discours courageux et émouvant où elle assume totalement sa liaison est à mon avis un grand moment du film. Et puis la scène finale que je ne dévoilerai pas mais qui dans sa lente progression et son intense émotion est à mon avis tout simplement sublime.
Ah, c'est une très belle scène. Mais on retrouve de manière générale un peu cette beauté formelle dans tout le film, non ?
Oui, oui, ce film est d'une facture extrêmement soignée, car outre la reconstitution très minutieuse des années 50, dans le mobilier, les couleurs, les voitures, même la manière dont fument les personnages, Haynes a accentué le huis clos urbain en cadrant ses personnages au plus près, alors soit dans la vitre d'une voiture, soit dans une encadrure de porte ou une entrée de couloir. Alors, on appréciera également, je pense, la construction et un montage particulièrement habile qui nous font comprendre tardivement par la reprise de la scène du début que le film en réalité est un long flashback.
Oui, c'est un film qui est très intéressant sur le plan de la construction des images. Jean-Michel, comment as-tu aimé ce film ?
C'est difficile de dire comment je l'ai aimé puisque je l'ai cordialement détesté en fait.
Il y a un peu de contradiction.
Je suis beaucoup plus réservé, bien sûr, que l'enthousiasme de Marie-Jeanne sur ce film. Bon, sur la situation et les prémices, je suis d'accord. Todd Haynes fait l'histoire d'une passion interdite avec des contrastes spectaculaires, mais qui, pour moi, sont accrocheurs et très attendus. Il y a la blonde et la brune, la riche et la pauvre, la dominante, la dominée. Tout ça n'est pas extrêmement passionnant. Ce long flashback, cette intrigue, souvent filmée à travers des vitres obscurcies par la pluie, la saleté ou la buée, me paraît, c'est un autre prisme bien sûr, une œuvre maniérée et rétro à notre époque, très chic, très glamour, trop léché, manquant de naturel, jusqu'aux ondulations de la coiffure de Carole elle-même.
Années
50, absolument. Mais à quoi bon filmer aujourd'hui, d'une manière si désuète, cette histoire à laquelle on a du mal à croire, pour ma part, malgré la virtuosité de Cate Blanchett, en grande bourgeoise esselée, mais qui, pour moi, ne réussit absolument pas à m'émouvoir. Dans le genre, et comme tu l'as cité, moi je préfère La vie d'Adèle de Kechiche. Et au total, c'est pour moi un film élégant, ça a été dit, mais académique, dépourvu de toute substance vitale et emballé dans du papier cadeau glacé. Un film soigné, impeccablement réalisé, mais qui manquant souvent de rythme et d'intensité, finit par m'ennuyer.
Mais tu n'as eu à aucun moment une émotion.
Aucun moment une émotion. À Cannes, j'étais sorti avant la fin, là, par devoir. Je l'ai vu jusqu'au bout, mais j'ai été terriblement attristé par ce film.
Jean.
Non, c'est pas mon cas. D'ailleurs, je me suis étonné que Cate Blanchett n'ait pas eu le prix d'interprétation féminine partagé avec Rooney Mara, parce que, franchement, elles sont toutes deux très bonnes. Moi, ce qui m'a justement beaucoup plu dans ce film, et c'est un peu le reproche, c'est ce qu'on reproche Jean-Michel, c'est le fait que ça soit finalement un film des années 50. Et il a été filmé, on a l'impression qu'il a été filmé à la manière des années 50. Et c'est très intéressant de revoir un peu cette façon de filmer. Les teintes pastel, un critique a dit que c'était un film sur papier glacé. Et je trouve que cette expression est très juste.
Mais ça n'est pas gênant.
Mais ça n'est pas gênant. Moi, personnellement,
ça
n'est pas gênant.
Ça m'a pas gêné.
Le petit bémol, je trouve que parfois, il y a des scènes un peu trop longues.
Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est qu'il a été tourné à Cincinnati presque exclusivement en décor naturel, à part, je crois, une scène d'hôtel. Et donc, il a su recréer, finalement, à partir de bâtiments existants, cette atmosphère.
Mais qu'il n'y ait aucune vie ne vous gêne pas.
Mais il y a une vie brillante.
Aucune émotion.
Mais pas du tout.
Non, Jean-Michel. Jean-Michel, il y a une chose qui m'a beaucoup surpris dans ce que tu as dit, c'est il y a la blonde dominatrice et la brune. Parce que justement, c'est pas du tout ça.
C'est des schémas.
Il y a une subtilité. Ben justement, c'est pas un schéma. Parce que, en fait, là, c'est beaucoup plus subtil et équilibré que ça. Quand on regarde la première scène où elles se rencontrent, en fait, c'est la brune. C'est d'abord le regard de la brune. Et en fait, tout au long du film.
Le coup de foudre.
Voilà. Et donc, tout au long du film, on va voir cet équilibre et très souvent la brune reprend l'initiative. Donc, non, pour le coup, on est très loin d'un système manichéen. On est dans une très grande subtilité entre ces deux femmes. Peut-être que Jean, tu voulais ajouter autre chose parce que
je t'ai coupé là. Les deux femmes, effectivement, jouent un peu le même rôle. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une forte et une faible. Il y en a une qui paraît plus fragile, mais ce n'est pas vraiment le cas. Non, ce que je disais, c'est que parfois les scènes sont un tout petit peu longues, mais bon, c'est un détail.
C'est le cas de beaucoup de films actuels.
C'est le cas malheureusement de beaucoup de films actuels, et on aura l'occasion d'en causer tout à l'heure.
Non, ce qui est intéressant, évidemment, sur le sujet, le fond du film, c'est que ça nous montre quand même l'évolution gigantesque de la société en plus de 50 ans. Ouais. Et aussi, j'ai trouvé que ce qui était assez bien rendu, c'est que d'un côté, on a une atmosphère très chaude. Au fond, ces maisons cossues, ces intérieurs, etc., donnent une impression de chaleur. Et qu'à côté de ça, on a une société qui est d'une dureté totale par rapport à ceux qui ne sont pas dans le coup.
Qui ne sont pas dans l'axe.
Oui, tout à fait.
Mais Cate Blanchett est une pimbèche.
Non, Cate Blanchett est une actrice admirable que Jean-Michel, pour je ne sais quelle raison,
d'une beauté.
Pas.
Tu peux pas dire qu'elle est superbe.
Mais c'est pas
est
tellement.
Belle,
ben elle est belle, mais ça c'est pas tellement ce qui
rend.
Elle a une manière de jouer qui est quand même prodigieuse.
Oui. Quand on parle de Cate Blanchett, les femmes les trouvent très belles et en général les hommes la trouvent pas si belle que ça.
Oui, mais c'est pas ça l'important.
C'est son jeu.
Mais elle joue très bien.
Glacée.
Elle donne corps à ce film.
Bon, alors, pour ne pas heurter Jean-Michel, je ne la comparerai pas à Laurine Bacall, alors que pourtant, c'est bien ce qu'il y a dans ce film.
Bon.
Passons aux délices de Tokyo, de la japonaise Naomi Kawase, dont nous avions présenté l'année dernière le film précédent, Still the Water. Naomi Kawase est née en 1969 à Nara, l'ancienne capitale du Japon, où elle a passé toute sa jeunesse. Elle est la plus jeune réalisatrice à avoir reçu la caméra d'or à Cannes pour son premier long métrage Suzaku en 1997 et elle avait 28 ans. Et depuis, elle a réalisé une dizaine de longs métrages et reçu de nombreuses récompenses. Elle est une habituée à Cannes et où elle a reçu le grand prix du jury en 2007 pour La forêt de Mogari. Son cinéma, enfin à mon sens, est très original, poétique, à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, inspiré à la fois par la nature et par les religions ou les mythes du Japon traditionnel. Il raconte des histoires souvent ténues, mais émouvantes, mettant souvent en scène des personnes âgées, des malades, des jeunes aussi. C'est à la fois dépaysant et finalement très universel. Alors, Jean-Michel, que faut-il penser de ces délices de Tokyo ?
Pour moi, exactement ce que tu viens de dire de façon très concise, Naomi Kawase a une personnalité, un talent qui confère à ses films un style très particulier, très homogène, avec beaucoup de finesse, beaucoup de nuances et le risque parfois d'endormir le spectateur. Je précise tout de suite que c'est pas du tout le cas pour ce film qui a fait sous le titre de Anne l'ouverture de la sélection Un certain regard à Cannes l'an dernier. On retrouve ici, les thèmes qui lui sont chers, notamment que l'univers est un cadeau dont il faut apprécier chaque jour la beauté dans un film qui, pour moi, est plus simple et plus convaincant que Still the Water. Nous sommes nés, pense-t-elle, pour regarder les cerisiers en fleurs, pour écouter le vent, et pour goûter les merveilles des traditions culinaires.
Oui, les cerisiers en fleurs, c'est très beau, mais la réalisatrice va peut-être un peu plus loin que cette simple satisfaction esthétique béate.
Oui, 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 c'est vrai. Au-delà d'une mise en scène, au-delà d'une mise en scène qui cherche à mettre ses personnages en harmonie avec le milieu dans lequel ils baignent, la réalisatrice désirait aussi, dit-elle, afin qu'on se pose des questions sur les discriminations. Proposer une réflexion sur la dureté avec laquelle la société japonaise traite ceux qui sont différents. Ainsi a-t-elle été sensible dans le livre éponyme qu'elle a adapté à la description de ce qui est invisible dans la vie, dit-elle. L'héroïne Tokue est une délicieuse et déchirante vieille dame de 76 ans dont on découvrira tardivement le secret et qui se fait embaucher pour l'aider par Santaro, modeste fabricant de dorayaki, pâtisserie japonaise traditionnelle, faite de deux crêpes fourrées au han, qui est une pâte de haricots rouges confits.
Oui, là on est dans une cuisine ou une histoire très ténue, mais en quoi est-elle aussi émouvante ?
Eh bien, si Tokue se fait embaucher par Santaro, c'est qu'elle a perçu dans les yeux de celui-ci une grande douleur. Tous deux ont en effet en partage une vie de solitude derrière eux et les images montrent l'irrésistible progression de leur complicité et de l'amitié qui en résulte. La rencontre de ces deux êtres en souffrance, marginalisés par la société puisque Tokue a une maladie honteuse et que Santaro a fait de la prison, et l'épanouissement de leur amitié insolite redonne un sens à leur vie. Et bientôt, on fait la queue devant la petite échoppe, leur petite échoppe, et les dorayaki se vendent comme des petits pains, cependant que filmée étape par étape, telle une cérémonie rituelle, la fabrication du han fait ainsi entrer toute l'harmonie de l'univers dans une casserole.
Donc, en définitive, à ton avis, on doit engager nos auditeurs à voir ce film ?
Ben, je le pense. Le film de Naomi Kawase est une leçon de vie, même pour ceux, fait-elle dire à son interprète principal, qui n'ont pas réussi leur vie. C'est aussi une réflexion sur sa beauté, sur la nécessaire attention aux êtres qu'elle implique pour la faire éclore. Certes, le sujet de ce film, on l'a dit, peut paraître mince, mais ses enjeux sont forts et la réalisatrice reste fidèle à un style où règne la douceur et la pudeur des sentiments.
Alors Jean, tu as le même avis que Jean-Michel sur ce film ?
Globalement, oui, parce que j'ai beaucoup aimé ce film. Enfin, j'insisterai sur un point, c'est plutôt le début. J'ai eu l'occasion, hélas, vous aussi certainement, de voir à la télé un truc qui s'appelle Top Chef. Des émissions culinaires. C'est quelque chose d'absolument affreux, infernal.
Et tu là, regardes ça, toi ?
Non, j'étais obligé. J'étais à côté de quelqu'un qui voulait le voir et vraiment j'étais obligé. Bon, ça arrive. Et là, par contre, j'ai été subjugué par la préparation des haricots rouges. J'ai trouvé ce truc d'une beauté extraordinaire.
Ah oui, surtout quand elle parle aux haricots.
Quand elle parle aux haricots, quand on les voit bouillonner, oui. Bouillir tout doucement. C'est quelque chose de formidable. Je pensais pas qu'on pouvait, à partir de trop cette cuisine.
Je crois que c'est une des plus belles images du cinéma, ces
haricots rouges. Moi, ça reste pour moi une des plus belles images du cinéma. Alors, après, le reste, la deuxième partie du film, bon, j'ai un peu moins aimé.
Oui. Bah, écoutez, pour une fois, je suis d'accord avec Jean-Michel. C'est à noter dans les annales. Non, c'est un superbe film. Si j'osais le méchant jeu de mots, je dirais un film délicieux, vraiment poétique, à la manière de Kawase, qui est vraiment une très très grande réalisatrice de la poésie et de la finesse. Alors, j'ai un tout petit regret, c'est que les dernières images du film avec la voix off, malheureusement, appuient un peu trop, sont un peu trop lourdes et manquent de cette subtilité qu'il y a tout au long du film. Et je trouve que c'est dommage, ça obscurcit un tout petit peu ce superbe film.
Je crois qu'on a tous le même avis, les 10 ou 15 dernières minutes sont un peu pas tout à fait au même niveau du reste.
Voilà, c'est vrai.
Je reprends ce que disait Jean-Michel sur une morale de vie. Ce que j'ai trouvé fabuleux dans ce film, en tout cas dans toute la première partie, c'est la mise en image de cette morale de vie. En fait, la beauté des images, d'une certaine manière, illustre la beauté intérieure de cette femme.
Oui.
Et j'ai trouvé que c'était... c'est là où on est au sommet du cinéma. C'est-à-dire quand on, effectivement, on interprète... On donne à voir quelque chose qui est complètement intérieur.
Ouais. Et tout en étant dans une autre culture, on a quelque chose d'universel.
Oui, alors oui. C'est ça qui est admirable, oui. C'est qu'en plus, on devrait être complètement dépaysé. Or, en fait, ça nous touche.
Pas du tout. Et cette vieille dame est absolument craquante,
si on peut dire.
Alors, un point peut-être aussi qu'il faut noter, c'est que ce thème aussi de la vieillesse, un peu en difficulté, est certainement un thème très d'actualité au Japon, où, comme on sait, ils ont beaucoup de vieux, et les vieux qui, pour certains, sont un peu laissés à l'abandon. Donc c'est un film qui à la fois est universel, intemporel et rejoint sans doute des préoccupations assez actuelles du Japon. D'autres points ?
Non,
on est tous d'accord.
On est tous d'accord. Je pense que la scène des haricots, c'est vraiment de l'anthologie.
Ah oui, c'est magnifique.
Oui, c'est très très beau. On a cité effectivement aussi les fleurs de cerisier, mais ça c'est un peu plus vu. Mais effectivement, la façon finalement très très modeste de faire cette cuisine et d'en tirer des images admirables et des phrases admirables,
c'est quelque chose de
tout à fait exceptionnel. Donc un film que nous vous engageons à voir, c'est un petit moment de bonheur et il sort demain. Eh bien, nous allons faire une courte pause musicale maintenant. Bien, alors nous reprenons maintenant avec La Guerre des Étoiles, le nouvel épisode qui vient de sortir, Le Réveil de la Force. Alors il n'est peut-être pas nécessaire de présenter la saga à nos auditeurs, qui pour beaucoup sans doute en ont vu au moins les premiers épisodes. On peut quand même rappeler que cet univers de science-fiction a été créé par George Lucas en 1977. Il s'inspire du western, qui d'ailleurs est un peu en train de disparaître à cette époque aux États-Unis, mais aussi des ouvrages de Joseph Campbell sur les mythes et des livres de science-fiction de Frank Herbert, celui qui a fait Dune notamment. Nous en sommes donc au 7e film de la série, et la première trilogie était sortie entre 1977 et 1983 et avait connu immédiatement un très grand succès. Puis 3 épisodes qui n'ont pas laissé un grand souvenir aux cinéphiles, et je crois même aux amateurs de la série, ont été produits entre 1999 et 2005. Donc le nouvel opus est annoncé comme le premier d'une troisième trilogie, donc nous sommes repartis, et il est aussi le premier réalisé après le rachat de la société de George Lucas par Walt Disney en 2012. Le réalisateur Jeffrey Jacob Abrams est né à New York en 1966, Il est en fait surtout connu comme réalisateur de séries TV, mais a aussi à son actif quelques films à très gros budget, c'est-à-dire dans les 200 millions de dollars par film, comme Star Trek ou Mission Impossible 3, que bien sûr nous avons tous vu. Non, tant pis. Alors Jean, que trouve-t-on dans un film de ce genre? Quelles sont les recettes qu'il faut que ça marche?
Bien, avant de répondre à des interrogations, je voudrais revenir sur les chiffres lié à cette super production qui est surtout un big business. Le coût du film s'élève à 200 millions de dollars. À son premier jour d'exploitation, le 16 décembre, Le Réveil de la Force a rassemblé plus de 600 000 spectateurs en France, faisant du film la plus grosse sortie en 2015. 10 jours après, Le Réveil de la Force devient le film le plus rapide de l'histoire à avoir dépassé le seuil du milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Le 6 janvier, il est devenu le film aux plus grosses recettes de l'histoire et a dépassé Avatar avec un nouveau record historique de 764 millions de dollars uniquement aux États-Unis.
Oui, ces chiffres donnent tout à fait le vertige. Qu'on le veuille ou non, c'est d'une certaine manière une date quand même dans le cinéma. Mais ce film finalement tellement vu parle de quoi ?
Bon, en tout cas.
T'as raison, il faut revenons au film lui-même. Le Réveil de la Force est avant tout une histoire de famille, entre possesseurs de la force, obscure pour les uns, lumineuse pour les autres, et un dénommé Luke Skywalker, le dernier Jedi en vie, a disparu. Le Premier Ordre, qui est né des ruines d'un ancien empire galactique, fouille la galaxie pour le retrouver, tout comme la Résistance, dirigée par la générale Leila Organa. Celle-ci envoie le meilleur pilote de la Résistance, Poe Daremon, sur la planète Jakku, dans un village où se trouve une carte permettant de localiser Luke. Ce village est attaqué par les troupes du Premier Ordre, menées par Kylo Ren, un puissant guerrier qui utilise le côté obscur de la Force. Avant de se faire capturer, Dameron dissimule la carte dans son droïde BB-8, qui s'échappe à travers les dunes de la planète désertique et se réfugie auprès d'une pilleuse d'épave solitaire, Rey. Pour ceux qui ignoreraient ce qu'est un droïde, je précise que c'est une sorte de petit animal domestique, mais sous forme de robot, qui parle et qui roule. Bon, je vous ferai grâce de la suite du scénario, parce que c'est difficilement compréhensible si on n'a pas vu les épisodes précédents.
C'est effectivement assez compliqué.
C'est moins qu'on puisse dire, oui.
Mais au fond, est-ce que c'est fondamental de comprendre tout ça ?
Non, absolument pas. Parce que ce film est avant tout un spectacle. Et il faut se laisser prendre par l'image, la musique, les décors. Ceux qui se rappellent le premier épisode de 1977 retrouveront avec émotion les personnages de Han Solo, c'est toujours Harrison Ford, de son ami poilu Chewbacca, le droïde BB-8, juste un peu modernisé, Leila, la générale, ainsi que le thème musical mythique de John Williams. Ça, c'est très célèbre. Et surtout, J.J. Abrams fait la part belle au combat. Et ils sont époustouflants. Affrontement au sabre laser, destruction et explosion en tout genre, poursuite dans l'espace, ça ne manque pas. Chaque personnage défend chèrement sa vie et celle de ses potes. Ce n'est pas seulement les effets spéciaux qui ont fait des progrès. Et qui font que le film déménage. Notons quelques moments de détente, quelques brèves scènes de tendresse, des personnages extraterrestres étonnants. Le réalisateur se permet aussi de faire de la politique, car l'imagerie totalitaire du Premier Ordre et de l'Empire est valide dans toute époque, toute génération, qu'elle renvoie à l'Allemagne nazie, à la dictature soviétique ou à des barbaries plus actuelles. Mais l'action seule ne suffit pas à faire vibrer le public. Et le réalisateur insiste aussi sur les personnages. Ce sont les héros des premiers films, ou bien de nouveaux personnages qui adoptent les codes bien huilés de la saga. Parmi les nouveaux, quand même, remarquons que J.J. Abrams a choisi une femme, Rey, comme héros bagarreur, qui aura l'honneur de combattre dans le dernier duel au sabre laser, elle en blanc, lui en noir. Tous les fans de la saga y ont retrouvé leur petit. Souhaitons donc bonne chance aux épisodes 8 et 9 et rendez-vous avec vous dans 2 puis 4 ans.
Alors,
si vous avez le courage.
Marie-Jeanne, qu'en penses-tu ?
Mais écoutez,
voilà un film différent de ce qu'on voit d'habitude.
Je crois qu'il faut prier pour moi parce que je pense avoir définitivement perdu mon âme d'enfant. Alors, avant de voir le film, j'ai consulté un spécialiste, non pas de la perte de l'enfance, mais de ce genre de film. Un gamin de 13 ans, de mes connaissances, qui a tout vu. Alors, il m'a d'abord interrogé, qu'est-ce que tu as vu ? Je lui ai dit, j'ai vu le premier épisode, il y a un petit peu longtemps. Et alors, il a pris un air consterné, il m'a dit, mais tu n'as vu ni le 2, ni le 3, ni le... Non, non. Alors là, il a pris un air docte et il m'a dit « Mais tu n'y comprendras rien ». Et le bougre avait raison. Et quand j'entends Jean, je pense que effectivement, je n'y ai rien compris. Alors, attendez, t'as rien compris. Non, j'ai compris qu'il y avait un combat entre les bons et les méchants.
Ouais, faut pas vraiment chercher à comprendre.
Hein. Oui, non, mais qu'il y avait un combat entre les bons et les méchants, que les méchants étaient en blanc et que les bons étaient beaucoup plus diversifiés, ce qui casse un peu les codes. Encore que le
j'ai
grand
compris
méchant.
Compris la même chose.
Ah ben, encore que le grand méchant est toujours en noir. Hein.
Absolument.
Non, oui. J'ai compris aussi qu'il y avait un drame shakespearien entre le père et le fils, et que le fils doit tuer le père pour être enfin lui-même.
Oh, c'est avant Shakespeare, même,
oui,
ça.
Ben, oui, mais enfin, bon, là, ça m'a fait penser à Shakespeare.
C'est Shakespeare qui s'est inspiré de l'étoile.
J'ai compris aussi, avec grand plaisir, que finalement, tout ce monde avait été sauvé grâce à une femme, et par une femme, ça c'est très bien. Mais alors, le retour de la force, ça m'a complètement assommé.
Jean-Michel.
Le film, le retour de la force, t'as assommé. Oui. Oui, ben moi.
C'est le réveil.
Moi, j'ai pas vraiment.
Le retour, oui, le réveil de la force.
Le réveil de la force. J'ai pas vraiment vibré, moi non plus. Bon, moi, j'ai un peu la même expérience que toi, avec les plus jeunes, que j'ai un peu interrogés. J'avais vu le 1 et le 2, et pas les suivants. Alors, il y a aussi une version 3D qui peut-être aurait gagné à être vue, paraît-il.
Non, moi, mon fils l'a vu en 3D et ça n'apporte pas grand-chose.
Tu te fies à l'opinion de ton fils.
Alors, on a devant soi des violences innombrables, des incendies, des assassinats, des combats au sabre laser. Effectivement, la dernière séance du film, la dernière séquence, mais dont je pense vraiment qu'elle souffre d'être mise à côté. Par exemple, des combats taïwanais ou shaoxiennes dans Assassin, par exemple, que nous allons voir bientôt. On peut aimer.
Assassin, d'accord. C'est quelque chose.
Alors, les déplacements interplanétaires dans ces machines improbables à la vitesse de la lumière, évidemment, ça fait un petit peu sourire. Il y a aussi des tas de monstres, des déformations corporelles de toutes sortes, des animaux. Oui, ça porte l'imagination, mais rappelons-nous Goya, le sommeil de la raison engendre des monstres. C'est un petit peu ça. C'est totalement déraisonnable.
Ils sont sympas, ces monstres.
Ils sont sympas.
Ça dépend lesquels.
Pas tous.
Alors,
les bons, les méchants, d'accord. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, les méchants en blanc, c'est quelque chose qui fait un tout petit peu réfléchir. Et le méchant suprême, on ne verra son visage qu'à la fin, cet ange déchu, qui était, si j'ai bien compris, le premier Jedi, celui qu'on voyait dans les premiers films,
c'était un qui aimait la force et qui s'est
cassé. C'est pas le même. Enfin, il a quelques générations. C'est quand même un Lucifer. C'est une sorte de Lucifer.
Oui, c'est un Lucifer. C'est ça qui est intéressant. C'est l'ange déchu. Alors. Romantique.
Ce qui me semble intéressant, c'est l'amour, enfin, le sentiment et le partenariat entre Finn, l'homme noir, Rai, ce personnage féminin qui est quand même bien pâle et très peu sexy, enfin pour moi. Ce petit robot.
Jean, qu'est-ce que tu en penses?
Je ne pense pas si vilaine que ça.
Elle est mignonne, écoute. Elle est bien faite.
Oui, alors c'est pas mon type.
Elle a de la force.
C'est pas mon type. Mais, et puis le petit droïde qui est amusant, roule et qui ponctue le film. Voilà. Bon, alors simplement je pose une question. J'ai essayé de me poser une question. Si on veut porter un regard chrétien ou humaniste sur le film, parce qu'après tout, c'est notre rôle. Et il y a d'ailleurs ici, à Fréquence Protestante, un article qui est affiché à ce propos, mais où il y a énormément de choses qui sont dites. Mais bon, lutte éternelle du bien contre le mal, réconciliation des races blanches et des races noires, peut-être, avec ce couple que nous voyons, et qui m'a un petit peu titillé, et qui, pour les États-Unis, est important, parce qu'ils en sont loin, les pauvres. Et puis sinon, c'est du jeu vidéo.
Oui, alors effectivement, bon, c'est d'une certaine manière, c'est du jeu vidéo pendant une bonne partie. Moi, je dirais que ce qui m'intéresse le plus dans ce film, c'est pas du tout effectivement les combats de fusées, mais c'est beaucoup plus là où on voit la vie grouillée. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on compare les forces du bien et les forces du mal, il y a d'une certaine manière une façon de retravailler les mythes, quoi. Et les forces du mal sont représentées par l'ordre, la technologie. C'est pas inintéressant quand même pour un film américain. Ceux qui ont la technologie, bourrée de technologie, sont les forces du mal. La race blanche, parce que le seul noir qui fait partie des forces du mal, il déserte. Les hommes, on voit quasiment pas de femmes du côté des mauvais.
Des mauvais, oui. Ah,
et puis ces couleurs, gris, blanc et noir, et des paysages aussi désolés et morts. Et à l'opposé, les forces de la République, les résistants, sont un peuple grouillant de toutes les races, y compris non humaines, avec des technologies qui semblent toujours de la bidouille, beaucoup de couleurs, des femmes, et qui vivent dans des paysages verdoyants.
Et qui gagnent.
On peut dire qu'il y a un message pro-diversité, écologique, l'homme blanc méchant utilise la technologie pour détruire le monde vivant, et la vie, la liberté et la nature sont du côté de la diversité. Ouais. Écoutez, c'est un film très moral. C'est un film extrêmement moral. D'ailleurs, sinon, ce ne serait pas un blockbuster. Maintenant, nous passons au coup de cœur. Alors, nous en avons trois ou quatre. Marie-Jeanne.
Alors, j'ai choisi « J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd ». C'est un film documentaire de Laetitia Carton, qui est une jeune réalisatrice scénariste qui s'est fait connaître par un long métrage « Edmond, un portrait de Baudouin », qui est un auteur de bande dessinée. Alors, par ce film, elle nous emmène dans un monde que nous connaissons mal et que nous ne voulons pas connaître, le monde des sourds-muets. Il a été écrit en souvenir d'un ami, Vincent, qui était un homme de théâtre, sourd et homosexuel, et qui, victime de l'ostracisme de la société, s'est donné la mort il y a 10 ans. Cet ami avait entraîné la réalisatrice dans son monde, en lui faisant apprendre la langue des signes. Le projet, d'ailleurs, de ce film était né entre eux. Alors, c'est un film délibérément militant. Elle filme plusieurs familles, dont une en particulier qui doit s'exiler à Toulouse pour mettre leurs enfants dans une des rares écoles françaises qui accueillent les sourds avec un enseignement adapté, notamment la langue des signes. Tous les protagonistes de ce film soulignent l'absurdité du système français actuel, aussi bien celui de l'éducation nationale que celui du monde médical, tous deux sourds, c'est le cas de le dire, à la détresse et à la spécificité du monde des sourds. En effet, la politique actuelle, c'est de tout fonder sur l'oralité, au nom d'une uniformisation, forçant les malentendants à prononcer, au prix d'efforts constants et peu concluants. Quant au monde médical, il s'échine à vouloir réparer les oreilles en appareillant les sourds, au détriment de la langue des signes. Or, les protagonistes réclament que ce soit la langue des signes qui soit enseignée, qu'ils jugent riche, complexe, et qu'elle soit enseignée dans leur culture, car c'est leur culture, c'est la richesse de leur monde. Alors, ce film est émouvant, car il nous confronte à des problèmes que la communauté des entendants ne perçoit pas toujours. C'est une très salutaire immersion dans ce monde que l'on découvre joyeux, solidaire, chaleureux, uni par des manifestations sociales, comme par exemple des bals ou l'élection de Miss France des sourds. Alors, c'est un monde qui est lié par une culture, un langage spécifique qu'ils veulent préserver, qui forme une communauté, mais au sens le plus positif du terme, c'est-à-dire non comme synonyme d'exclusion, mais au contraire comme une intégration avec les spécificités qui sont les leurs. On pardonnera le montage un peu brouillon, car c'est un film nécessaire et qui nous force à réfléchir.
Voilà. Merci Marie-Jeanne. Jean.
Moi, j'ai vu quelque chose qui s'appelle « Le garçon et la bête ». Il s'agit d'un film d'animation japonais de Mamoru Hosoda, lequel est né en 1967, donc qui est relativement jeune. Son dernier film sorti en France s'appelait « Les enfants loups », et c'était en 2012. Donc, bienvenue au pays des mangas. J'avais en souvenir les dessins animés de mon enfance et celles de mes enfants et petits-enfants. Les sirupeux et bébêtes Walt Disney, Bambi, Jumbo. Puis sont venus les films d'animation comme Kirikou ou Minuscule. Et côté japonais, le grand Miyazaki avec Le Voyage de Chirico ou Le Château dans le ciel, par exemple. Ici, avec Hosoda, nous franchissons une étape supplémentaire et plus rien ne sépare ce film d'animation de ses grands frères, des films asiatiques violents, si ce n'est l'absence de sexe. Suite au décès de sa mère, le jeune Kyuta fugue dans Tokyo. Il trouve un passage secret qui le mène au pays des bêtes. Il deviendra le disciple de Kamutestesta, un ours mal léché, et apprendra à devenir adulte. Kyuta est un adolescent malheureux, agressif et en quête de repères, très contemporain en somme. Et son maître, Kamutestu, une brute épaisse. Rien à voir donc avec les personnages des dessins animés. Les thèmes abordés, la confrontation du bien et du mal, les difficultés pour un adolescent à grandir et à se forger une stature d'adulte sont bien traitées, même si c'est parfois un peu simpliste. On trouve aussi de multiples références à Star Wars avec la Force et aussi à Moby Dick et sa baleine. Beaucoup de scènes de bravoure ponctuent le film, comme les combats entre les bêtes et surtout les scènes finales à Tokyo avec la baleine noire qui détruit la ville et les derniers combats des héros. Malgré des énervements passagers dus à la frugalité du discours, on est pris par la beauté, la profusion des images et la maestria du studio d'animation.
Donc,
c'est du très grand travail, et si l'on accepte de se laisser entraîner par le souffle du récit, on est fasciné par le spectacle que nous donne Hosoda.
Très bien, merci. Jean-Michel, deux documentaires, je crois.
Oui, deux documentaires. Assez rapidement, pour les cinéphiles et prix d'Afrique, je voudrais évoquer ces deux documentaires qu'on peut voir au cinéma L'Espace Saint-Michel à Paris. Dakar, ta nostalgie, de Florence Arrigoni-Néry, c'est une déambulation poétique dans les rues de Dakar, en hommage à ses nombreux amis sénégalais emportés à la fleur de l'âge du jour au lendemain, faute d'avoir eu les moyens de se soigner. Et c'est en découvrant le Sénégal pour la première fois en 95 qu'elle est tombée amoureuse de ce pays et d'un homme. Un pays qu'elle a fréquenté pendant 14 ans, elle y a vécu et travaillé, et au fil du temps, en voyant ses amis mourir les uns après les autres, son envie a été de réaliser un film sur la fragilité de la vie en Afrique, et qui est très touchant, et qui est un hommage mélancolique à ceux qui se battent pour vivre. L'autre film, c'est le capitaine Thomas Sankara du réalisateur belge Christophe Cuplin, qui raconte l'histoire singulière du président du Burkina Faso depuis son élection en 83 à son assassinat en 87. C'était un révolutionnaire, féministe et écologiste qui a incarné l'espoir des peuples africains d'accéder à une société plus juste. Et le film est fait d'archives étonnantes qui redonnent la parole à un leader charismatique, anti-impérialiste, à un homme intègre qui a véritablement changé les mentalités de ses concitoyens et donné une dignité à son pays. Auteur d'un coup d'État initial, il a cependant, ironie du sort, été renversé par un autre coup d'État perpétré par son meilleur ami, Blaise Compaoré, qui devait rester 27 ans au pouvoir.
Merci Jean-Michel pour ces deux documentaires. On n'a pas beaucoup de films sur l'Afrique, donc c'est intéressant. Je voulais vous parler très rapidement d'un film français, celui-là, Je vous souhaite d'être follement aimé, qui est un film de Ouni Lecomte, qui est une comédienne et réalisatrice française d'origine coréenne et qui a quitté en fait la Corée à 9 ans pour être adoptée par une famille française. Donc c'est son deuxième long métrage et comme le premier, il est teinté d'autobiographie et reprend le thème de l'abandon. Donc le sujet du film, c'est une kinésithérapeute, Elisa, qui s'installe à Dunkerque avec son jeune fils Noé. Elle n'a pas choisi cette ville au hasard, car elle y est née sous X il y a une trentaine d'années et espère ainsi retrouver sa mère, qui lors d'une démarche officielle précédente a refusé de dévoiler son identité. Donc le film est le récit d'une rencontre qui doit autant à la volonté qu'au hasard. Il n'y a pas de véritable suspense pour le spectateur, qui lui voit en parallèle leurs deux vies et a bien compris qu'elles vont se rejoindre. Mais c'est filmé avec beaucoup de finesse, de justesse dans le ton, les hésitations d'Elisa, ses difficultés avec son fils, les réticences de la mère biologique, inhibée par sa famille, le rapprochement des corps lorsqu'Annette devient la patiente de sa fille sans qu'elle le sache. Tout ça semble très vrai et est filmé avec beaucoup de pudeur dans une ville de Dunkerque qui rappelle le cinéma de Coris Maki. Ajoutons que les deux actrices qui interprètent ces deux femmes, donc Céline Salette pour la fille et Annette Benoît pour la mère, Anne Benoît plutôt, sont absolument remarquables et donnent une grande sincérité à leur personnage. Donc un beau film pudique sur un thème qui est très actuel. Bien, je crois maintenant qu'il est temps de rendre l'antenne. Merci à Marie-Jeanne, Jean et Jean-Michel qui ont animé avec moi cette émission. Merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à qui nous disons à bientôt. Chant contre chant est programmé tous les quatrièmes mardis du mois de 13h15 à 14h. Nous vous donnons donc rendez-vous pour le mardi 23 février.